Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on va accueillir le drôle de l'âme dans quelques instants, une info qui vient d'arriver, Oussem Aouar convoqué pour la première fois avec l'Algérie. Jamel Belmadi a donné son équipe là pour les prochains matchs internationaux à venir. Voilà, il y a un match contre l'Ouganda le 18 juin pour le compte des éliminatoires de la CAN et un match contre la Tunisie en amical le 20 juin. Et donc Oussem Aouar appelé pour la première fois.
Et il a le niveau pour jouer avec l'Algérie, Oussem Aouar.
Bah après, est-ce qu'il va jouer?
Parce qu'il joue plus là, tu vois, donc c'est étonnant quand même.
Ouais, écoute, voilà, j'ai la liste sous les yeux.
Qu'ils allaient mieux.
Il y a Ben Sebaini, Adjam, qu'on connaît, Aïssa Mandi, par exemple, Boudaoui, Denis, Ben Taleb, d'Angers, voilà, Aouar, Abdelli, d'Angers également est pris, tout comme Shaibi de Toulouse, par exemple, parmi les joueurs, ou Slimani également. Voilà. Un mot de Benzema, on va accueillir Fred Hermel tout de suite. Fredo, bonsoir.
Ah. Fred Hermel, bonsoir.
Hola chicos.
Voilà.
En fait, au départ, t'es là pour parler des traîtres. On met pas encore Benzema dans les traîtres, bien sûr. Deux dossiers totalement séparés. Mais tout de même, cette histoire d'Arabie Saoudite là et d'offres qui est évaluée par certains médias espagnols à 200 millions d'euros. Toi, ton avis de benzémiste sur la question?
Bah, et puis mon avis de journaliste qui a passé quelques coups de fil, alors que l'Arabie Saoudite, je dis bien l'Arabie Saoudite parce que c'est pas un club, c'est l'Arabie Saoudite qui veut faire venir plein de joueurs comme ils l'ont fait
avec Cristiano et après ils ont dit tu veux rentrer club
et avec Messi, c'est-à-dire après il choisit le club, l'idée c'est d'avoir une star dans chaque équipe et de faire un championnat très compétitif. Bien sûr qu'il y a une offre de l'Arabie Saoudite à Benzema comme il y a une offre pour plein de joueurs. Cela entre dans un cadre de développement du pays et de c'est géopolitique. Hein, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir, donc voilà, qui veut des images très fortes au niveau géopolitique.
On a compris que c'est pas le projet sportif.
Non, ça c'est clair. Mais c'est-à-dire que la géopolitique, ça passe aussi par le sport. Donc un championnat attractif automatiquement donne une visibilité.
On a fait de la géopolitique au Qatar avec Daniel pendant un mois. On connaît toutes les questions par cœur.
Vous savez très bien. Donc du côté du Real Madrid. Ils sont a priori pas trop inquiets sur la volonté de Benzema, même si on sait très bien que le Florentino Pérez acceptera la décision de Benzema au nom de toutes les années qu'il a passées au Real Madrid et de tout ce qu'il a fait.
Ah, ça veut dire qu'il ouvre la porte.
Non, c'est pas qu'il ouvre la porte, c'est que
bien sûr qu'elle est ouverte la porte, voyons.
Mais voilà, après simplement, moi j'ai échangé il y a quelques minutes avec un ami saoudien qui a été l'un des artificiers de la venue de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.
Oh. Artisan, plus qu'artificier, non?
Artisan, ouais.
Oui, artificier, ça veut dire qu'il a mis le feu à la venue de Cristiano Ronaldo.
Il a peut-être monté un feu d'artifice pour la venue de Ronaldo.
Non, alors, tu vois, 30 ans d'Espagne, ça pèse, on appelle ça un hispanisme.
Ah, très bien.
Donc, oui, l'un des artisans de la venue de Cristiano Ronaldo, lui me dit que non. Que Benzema ne va pas venir. Après, c'est l'information de ce soir. On sait comment ça peut se passer dans le football. Qu'il y ait une offre, oui. Que ce soit une somme délirante, oui. Que Benzema puisse partir, oui. Mais la tendance, au moment où on parle, c'est qu'il reste au Real Madrid. Donc, voilà. Après, moi, je me souviens de discussions avec Benzema où, pour lui, son objectif, c'était de rester au Real Madrid, de terminer sa carrière au Real Madrid.
Mais ça veut dire qu'il y a une hésitation de sa part? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
En tout cas,
il y a une proposition claire, il l'a sur un coin de sa table.
Je n'ai pas parlé avec Benzema, donc je peux pas le dire.
Mmh. Quand tu as une offre de 200 millions, tu la laisses sur un coin de ta table?
Dans un coin de ta tête.
Non, moi, je laisse pas sur le coin.
Bah non, pas le coin.
Non, mais dans un coin de ta tête.
Je la mets en haut de la pile, quand même.
Bah ouais.
Oui, mais à un moment.
Tu l'as mis dans un petit dossier.
C'est quoi la différence entre.
T'écris dessus offre en Arabie Saoudite.
Après, si je dois aller à Roland le lendemain, je me dis que j'étudierai l'offre après-demain.
Ouais, mais si t'as déjà 50 millions en banque, 200 millions, c'est
quoi? Si t'as pas de pression sur la date et autres, je la laisse n'importe où, peu importe.
Ouais.
Mais en fait, l'histoire des générations que tu mets à l'abri, parce que finalement, à un moment donné, faut quand même parler pognon. Il y a un truc qui met. Soit le mec veut envoyer des satellites sur Mars.
Mais oui, mais ça sert à quoi de 200 millions?
Non, justement.
Je veux dire, au bout de la quatrième, tu les
as plus. Hein,
et puis pour
c'est pour ça que l'histoire de blé, à un moment donné, soit tu as un projet bien plus grand que l'histoire de génération. Tu veux envoyer, par exemple, des satellites sur la Lune. Tu veux construire une nouvelle ville qui vaut 7 milliards. Ok. Dans ce cas-là, va en Arabie Saoudite, prends le plus de pognon possible parce que c'est sûr que ça coûte très cher. Mais une fois que t'as mis une, deux, trois, quatre générations à l'abri, machin, est-ce que effectivement t'as pas envie de te dire, oui, je reste au Real et
tu es déjà millionnaire, on t'offre 200 millions ailleurs, tu vas dire non? Réfléchis deux secondes.
Bah, peut-être, oui. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Une fois que tu as mis tes trois générations à venir à l'abri, que tu es heureux et que tu as justement le choix de pouvoir faire un truc et
d'en envie.
Moi, il m'en faudrait beaucoup
peut-être
parce que comme je dois racheter le PSG et qu'on se fait une grosse équipe, j'aurais besoin de beaucoup.
Ça, oui, c'est un projet, tu vois, ça coûte cher.
Moi, j'aurais dû dire ça. Plutôt que racheter le PSG, j'aurais dit on aurait ouvert des écoles en Afrique ou.
Ah oui, oui, t'as raison.
Toi, pour racheter Strasbourg avec 5 millions, c'est bouclé. Donc,
t'as
pas besoin de beaucoup, toi.
Non mais juste attends Fred, juste pour répondre. Non mais Gilbert a raison. Gilbert,
le Samaritain, j'avais même pas un prix.
N'importe quel projet qui coûte plein d'argent justifierait que tu fasses ce transfert à la fin de ta carrière.
Bill Gates, il fait quoi de son argent? Il a même dit à ses enfants, vous n'aurez pas l'argent. Voilà, vous n'avez qu'à faire des études.
Bien joué, Bill.
Mais le président de l'Atlético,
il a des fondations. J'en aurais une.
Le président de l'Atlético, laissez-moi parler, merci. Le président de l'Atlético de Madrid, qui est très riche, dit toujours. Il y a un moment, je peux pas manger plus de gambas que mon estomac ne supporte. C'est-à-dire qu'à un moment, plus d'argent, tu peux rien faire, en fait. Ça sert à rien.
Sauf à faire comme Bill Gates, c'est-à-dire si de penser aux autres.
Ouais. Voilà. Tu te dis, dans ta vie quotidienne, que t'es 50 millions en banque, je sais pas combien à Benzema. Enfin, il gagne à peu près 10 millions par an. Ça fait plusieurs, enfin, je sais pas, j'espère pour lui qu'il doit être autour de 50 millions en banque. Enfin,
non, mais vous êtes bien gentil avec
lui. Vu ses vidéos sur Instagram, il
Ronaldo,
dépense beaucoup dans les bagnoles.
Ronaldo, ça l'a pas emmerdé. Il est allé. Bon. Messi va probablement aller là-bas aussi. Bon, visiblement, eux, ces soucis-là, ils les ont pas. Ils savent quoi en faire. Ils distribuent, je sais pas ce qu'ils font. Mais,
autour de Messi, là, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent.
Mais non, c'est parce que vous avez des raisonnements de pauvres.
Oui, je suis d'accord avec toi, on a des raisonnements de pauvres.
Ah ouais, bah écoute.
Ou des raisonnements de gens qui sont pas entubés par des milliers de personnes autour.
Mais permettez-moi
qu'on avance.
Parce que Messi, il y a des milliers de personnes qui vivent autour, on sait.
C'est ça, et son papa le pousse à aller en Arabie Saoudite et il va y aller. Parce que ça sent le roussi, le fameux retour au Barça auquel moi, personnellement, j'ai jamais cru.
Javier Tebas était avec nous il y a un mois, il nous expliquait.
Il avait dit qu'il voyait pas comment il irait.
Comment le Barça pourrait payer ça, quoi,
à moins de pas avoir de salaire limite.
Oui.
Moi, je pensais qu'il aimait tellement le Barça, ce serait pas un problème, mais on a peut-être menti. Hein.
C'est pas le genre de la maison de faire.
On m'a peut-être menti, moi.
Des ristours de côté Messi, tu vois.
Voilà, mais visiblement, il y en a qui croient encore à ses sornettes.
Fred, bouge pas. Dans quelques instants, on te retrouve pour que tu nous donnes ton traître ultime de la Liga. Mais en attendant, on a un peu d'actu quand même à voir avec Johan Crochet et Paulo Breitner. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Johan, raconte-nous ce qui s'est passé pour la Juve aujourd'hui, dans la fameuse affaire à rebondissement, des pénalités, points perdus, amendes et autres liées à la gestion sportive.
La fameuse affaire à 50 bandes. Alors, aujourd'hui, on l'avait annoncé dès hier soir dans Génération After, il avait été précisé que la Juve avait trouvé un accord avec la Fédération pour le volet des salaires. Les salaires, c'est quoi? Grosso modo, pendant la période du Covid, la Juve avait annoncé que les joueurs avaient renoncé à des mensualités, plusieurs mensualités, avaient communiqué ça publiquement, les avaient transmis à la bourse, et il s'est avéré ensuite qu'ils avaient passé des accords secrets avec les joueurs pour que les salaires ne soient pas annulé, mais simplement reporté. Sauf qu'il l'avait pas annoncé dans les bilans, tous les bilans économiques de fin de saison, etc. Et donc, la bourse avait commencé à taper sur les doigts de la Juve, etc. Donc, ils ont décidé à ce moment-là, de trouver un accord. Trouver un accord, ça veut dire quoi? On trouve un accord avec la fédération et ensuite, on passe à une audience le lendemain. Là, c'était avancé au lendemain. Où on dit, en grosso modo, est-ce que l'accord entre la fédération et la Juve est valable ou pas? S'il est pas valable, on repasse à une étude du cas. S'il est valable, on entérine la chose et c'est comme ça. Et ils ont trouvé cet accord sur les salaires qui a un effet, j'allais dire un double effet qui se coule. C'est-à-dire que dans l'accord, il a été précisé que, OK, on vous met pas de points supplémentaires de déduction. Je précise, ça, c'est les salaires sur les doubles, sur les transferts surévalués, etc. C'était autre chose. Mais sur l'affaire des salaires, on vous met pas de points en moins, on vous met une amende qui vaut ce qu'elle vaut, 718 000 euros, c'est peu ou pas, ou trop, j'en sais rien. Mais par contre, on dit que sur l'affaire des moins 10 points, donc liée aux plus-values fictive ou exagérée, etc., vous ne pouvez plus faire appel. C'est ça l'accord. On ne vous met pas de points en moins. Par contre, vous laissez tomber tous les appels possibles après les moins 10 points, la nouvelle sanction tombée par le tribunal fédéral italien, donc de la Fédération nationale italienne de football. Et donc, bah, ça a été entériné comme ça. Donc la Juve a bien les moins 10 points liés aux plus-values fictives. La Juve, les dirigeants de la Juve ont bien été sanctionnés. Il y a 718 000 euros supplémentaires d'amende qui ont été faits. Et la Juve renonce à tout appel. Ce qui permet une chose, la Juve, alors du côté de la fédération, en gros, l'idée depuis le départ, c'est ce que je disais hier soir, moi je ne comprends pas cette espèce de marchandage de tapis qui est insupportable. En gros, ça devrait pas être au doigt mouillé, cette histoire. Mmh. En gros, on a dit à la Juve, il faut les sortir de la Ligue des Champions, parce que ça sera une sanction qui sera très pénible sportivement et aussi économiquement, sans les recettes de la C1. Donc les moins 10 points permettaient de sortir la Juve de la Ligue des Champions, mais permettaient de les garder encore possiblement en Conference League ou en Europa League, parce que derrière, il y a une sanction qui peut arriver de l'UEFA, les privant de qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et vous savez comment ça se passe, les sanctions en Coupe d'Europe avec l'UEFA, c'est... La sanction est pour la prochaine fois où vous allez vous qualifier en Coupe d'Europe. Si là, ils avaient sorti la Juve de toute Coupe d'Europe, ça veut dire que la saison prochaine, il n'y aurait pas eu de Coupe d'Europe. Donc l'éventuelle sanction de l'UEFA aurait été repoussée à la saison encore d'après. Ce qui veut dire qu'il y aurait eu deux saisons consécutives sans Coupe d'Europe pour la Juve. Et ça, on estime, je pense sincèrement, c'est là que je reviens à cette espèce de marchandage, de souk, de fin de marché où tu négocies le prix des tomates, où en gros... on a dit deux c'est trop, donc allez on signe pour un et puis voilà.
Et il faut évoquer le chantage aussi qu'a fait planer Seferin. On en a parlé ensemble récemment sur le chantage qui portait sur l'idée que la Juve, pour être épargnée de sanctions au niveau européen, devait faire une déclaration comme quoi il renonçait à l'idée de Super League. Ça, je trouve que là, on a atteint un degré de scandale, de méthode mafieuse de la part de Seferin qui est complètement hallucinant. Hallucinant.
C'est insupportable, en fait, dans cette histoire, parce que tout, je le répète, c'est une question de... Ouais, tu négocies le prix du kilo de tomate.
On n'est plus dans le débat, c'est pour ou t'es contre, quoi. C'est, comme tu dis, s'il y a eu faute, il y a sanction. Est-ce que ça doit être répercuté au niveau européen?
Elle est établie par rapport à un barème. Voilà, on prend le barème.
Est-ce que ça doit être répercuté au niveau européen? Mais la menace, on va vous sanctionner aussi au niveau européen parce que vous êtes dans le clan des méchants qui êtes pour la Super League. Ouais. Et donc, on va vous faire peur. Mais c'est ce qu'a fait, il y a eu des articles en Italie là-dessus, il faut quand même le dire, notamment dans la Gazzetta, où officie un journaliste qui est proche de Seferin, qui donc en gros sert à passer des messages et à un peu faire laisser planer la menace officielle.
Tu sais qui est le propriétaire de la Gazzetta.
Ben, il faut le dire. Donc le propriétaire, expliquons le propriétaire de la Gazzetta, mais également celui de Marca, c'est ça?
Ouais.
C'est le président du Torino.
Cairo,
qui est un proche de Seferin.
Exactement.
Enfin, je sais pas, vous mesurez un petit peu le scandale européen. On n'en parle pas en France de ça. On n'en parle pas en France. C'est vraiment pas un sujet dont on parle. Moi, je tenais à ce qu'on en parle beaucoup et on n'a pas assez de temps d'ailleurs. Mais il se passe des choses au niveau du football européen dans cette histoire de Super League entre les pour, les contre, les opposants. On est dans une espèce de guerre économique incroyable. Et Polo, on pourrait presque déborder sur lui parce que le retour de Rummenigge au Bayern, lui, qui a des idées là-dessus qu'on maîtrise pas bien. Il a d'abord été pour, il est maintenant a priori contre, et encore qu'on sait pas très bien vraiment dans quel camp il est. Mais il y a des batailles de pouvoir en ce moment dans le foot européen qui sont très intéressantes à suivre d'un œil extérieur, mais avec des coups bas d'une violence assez phénoménale.
Ouais, on est dans le monde entre le monde des affaires, du business et de la politique, quoi, où tous les coups sont permis pour arriver à tes fins. Et moi, vous savez ce que je pense en gros de la Super League et de comment c'est construit et par qui c'est construit. Mais moi, je trouve ça insupportable qu'on fasse un espèce de chantage à la Super League en disant, on peut ne pas vous sanctionner, mais faut faire.
Comment tu peux encore soutenir l'UEFA et Seferin, Johan? Ça te dégoûte pas?
Non, mais en fait, ma position, c'est que moi, si on quitte l'UEFA, je veux que ça soit pour quelque chose de bien, pas pour quelque chose de mal.
Ouais, mais là, pour l'instant, on ne sait pas trop.
Parce qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent. Johan, reste également, parce que toi aussi, tu veux nous donner ton traître ultime de la Serie A dans quelques instants. Polo Breitner est là. Polo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Polo, est-ce que le dossier Bayern a avancé aujourd'hui?
Sur le dossier Bayern.
Oui, les nouveaux dirigeants, tout ça.
Oui, évidemment, c'est le retour, ou tout du moins l'arrivée de Karl-Heinz Rummenigge au conseil de surveillance du Bayern. Rappelons qu'il a été CEO avant.
Avec du vieux, là.
Ben, c'est en Allemagne, tu sais, on dit que c'est l'ancienne République qui revient, celle d'où Lyonnais, tout simplement, parce qu'ils sont en train de faire le ménage. On parle des conseillers d'Oliver Kahn qui sont aussi sur le départ et qui auraient été, en l'occurrence, responsables de la très mauvaise ambiance au sein du personnel de la Sabenerstrasse et donc les employés, tout simplement. Et là, on est en train de faire le ménage complètement. Ce qui est important pour cet été, donc nous n'aurons pas de directeur sportif, mais il y aura, en gros, le conseil de surveillance, Rummenigge, Hoeneß et d'autres personnes qui seront là pour superviser ce que veut en gros faire Thomas Tuchel, pour simplifier. Thomas Tuchel va devenir en tout cas un genre de manager à l'anglais, c'est-à-dire c'est très rare en Allemagne, c'est-à-dire qu'il soit l'entraîneur qui décide en même temps de qui il veut comme joueur, mais c'est ce fameux board, tous les transferts à plus de 20 millions d'euros seront validés par le board du Bayern Munich. Et encore une fois, okay, ce qui est très très intéressant en Allemagne, c'est que c'est vraiment le retour de cette, entre guillemets, vieille Allemagne. On appelle ça la Bundesrepublik, la RFA, le retour de la RFA.
Toi, t'en penses quoi du retour de Karl-Henri, Charles-Henri?
De Charles-Henri et Charles Henriot. J'en pense que c'est pas facile de changer de génération. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Oliver Kahn a fait des erreurs manifestes, non pas forcément sur les idées qu'il a eues, mais sur la méthode, c'est-à-dire qu'Oliver Kahn n'a pas compris que ce n'est pas lui qui représente le Bayern Munich et que l'institution bavaroise est au-dessus de lui et que lui, il est resté trop joueur et dans le conflit permanent, notamment avec certains médias ou la façon de s'expliquer sur différents sujets.
Paulo, dans quelques instants, toi aussi, tu vas nous donner ton traître ultime de la Bundesliga. Je précise que, c'est pas, on le met pas dans les traîtres, hein, mais que Benjamin Pavard, lui, a expliqué au Bayern qu'il voulait partir. Oui. Et apparemment, le Barça s'intéresse à lui, Benjamin Pavard. À suivre.
Avec quel sou?
On va voir. Dans un instant, les traîtres dans le foot. C'est le sujet, un des sujets principaux de la prochaine revue de l'After, enfin de la revue de l'After qui est actuellement en kiosque. On va en parler ensemble et en débattre. Préparez vos traîtres, les gars. C'est parti, on va se régaler.